Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus. Vous écoutez Ondes Lycéennes et nous sommes le 9 mars, donc le lendemain de la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Donc c'est une journée qui est l'occasion de faire la lumière sur les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Et donc de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le monde qui ont permis aux femmes de revendiquer leurs droits dans les différents pays. Donc dans cette émission, on va un peu parler du mouvement féministe qui est donc illustré par cette journée mondiale. Donc le féminisme, c'est le fait de défendre l'égalité homme-femme, ou au moins d'y croire. Et donc on va commencer par parler un petit peu des violences sexuelles et sexistes que subissent les femmes et ce qu'elles revendiquent comme mesures à mettre en place contre celles-ci. Donc tout d'abord, c'est une journée qui a eu lieu dans un cadre très tendu en France, puisque c'était juste après la cérémonie des Oscars qui a fait très polémique. Donc oui, puisque Roman Polanski a été nominé 12 fois pour son film J'accuse, alors qu'il a également été accusé de viol par 12 femmes. Donc voilà qui a beaucoup fait parler et qui a fait une énorme polémique, notamment l'actrice Adèle Haenel qui a quitté la salle, complètement offusquée par ces nominations.
Voilà, donc exactement, on a pu voir ensuite diverses réactions, donc... Par exemple, Virginie Despentes et sa tribune, qui a pas mal fait parler d'elle quelques jours plus tard dans les journaux. Donc désormais, on se lève et on se casse. Donc c'est quelque chose qui a pas mal cristallisé le débat ces derniers jours et puis qui rappelle que oui, il y a encore des violeurs qui sont en toute impunité là parce que il est réalisateur et que on estime que faut séparer l'homme de l'artiste à ce niveau-là et que, enfin bref, voilà. Mais il faut savoir que la culture du viol et le fait de défendre les violeurs, c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop répandu en France comme ailleurs.
Moi justement, je sais pas, bon, on va peut-être faire un tour de la table. Je sais pas quel est votre point de vue justement sur cette polémique, mais personnellement, les personnes qui disent pouvoir discerner l'artiste du violeur dans ce cas-là. Moi, j'y crois pas trop parce que là, on touche vraiment à un droit fondamental de l'homme. Et on peut pas, quand on touche à un droit si normal finalement que tout le monde a, on peut pas le retirer pour mettre à la place finalement pour mettre comme excuse c'est un grand artiste, il a fait beaucoup de choses, on n'a pas le droit. Peu importe l'homme qu'on est, ni la carrière qu'on a eue, on peut pas donner ce droit à qui que ce soit.
Surtout que je pense que pour toutes les femmes qui ont été victimes de ce genre de choses, pouvoir voir qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il est applaudi et qu'il est sur le devant de la scène, je pense que c'est très blessant. Et ça illustre parfaitement la situation en France, qui est que très peu de viols sont finalement condamnés, ou en tout cas vont au bout de la procédure de condamnation. Et du coup, je pense que c'est vraiment une très mauvaise image, même pour les enfants qui entendent parler de ces histoires-là, pour toutes les petites filles, de voir qu'au final, c'est même pas grave, puisque c'est pas reconnu en tant que tel, il peut se faire applaudir et continuer de faire des millions en produisant des films. Je trouve que c'est un peu décourageant et ça illustre très très bien toute la situation dans laquelle, et pour laquelle... contre laquelle les femmes se sont battues hier.
Et même dans certaines émissions, il y a certains chroniqueurs justement qui défendaient Roman Polanski et tous ces auditeurs qui regardent ou qui écoutent ces émissions, ça leur envoie une image que justement Roman Polanski, il est entre guillemets dans son droit de faire ça, alors que pour ma part, je trouve ça totalement aberrant qu'on puisse laisser passer des choses comme ça, qu'on puisse même le récompenser, même l'inviter. Pour moi, il aurait vraiment pas dû être là, quoi. Il avait pas du tout sa place. Et je comprends que certaines personnes se sentent indignées face à tant d'enthousiasme avec cet homme. Et je comprends que cette actrice ait décidé de quitter la salle parce que
Comme elle l'a dit, c'est une honte. Elle a clairement dit c'est une honte et c'est vrai que ça fait honte à tout le cinéma français. Enfin, il est très très mal représenté ici.
Oui. Non mais clairement, c'est un sujet qui, hélas, fait encore débat, ce que je trouve un peu aberrant. Mais ouais, il y a encore des gens qui sont pour séparer Du coup, l'homme pédocriminel de l'artiste pédocriminel. Donc pour moi, le choix est vite fait. Mais ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez aberrant. Et donc c'est un exemple, malheureusement parmi tant d'autres, en fait, de d'affaires d'agressions sexistes et sexuelles. Donc je pense que voilà, c'est tous les médias sont cristallisés dessus. D'ailleurs à raison, en fait, hein, ces derniers jours. Mais on va peut-être, du coup, dans cette première partie, essayer de parler
Un peu plus
un
largement,
peu plus
oui.
largement.
C'était pour illustrer en tout cas la situation en France par rapport à l'actualité. Mais donc quelque chose dont on a aussi beaucoup parlé récemment et qui commence à faire un petit peu polémique et qui commence à avancer, c'est donc les féminicides, qui sont des crimes envers les femmes en raison de leur sexe. Donc ça, pour l'instant, en 2020, on compte 17 féminicides. Le chiffre très alarmant de 2019 est de 149 femmes tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. C'est un chiffre qui a beaucoup fait parler et pourtant le gouvernement ne met pour l'instant pas encore assez de mesures en place. Sauf que les politiciens disent que c'est un problème qui est trop complexe pour avancer. Donc qu'est-ce que concrètement peut être fait? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le traitement de ces problèmes?
Bah déjà, je pense, avant de trouver des solutions, il faut déjà que l'État reconnaisse le problème et la base du problème. J'ai l'impression qu'en disant que c'est trop complexe, on cerne pas vraiment quel est le problème, ou on n'en cherche même pas les causes finalement. Et si on n'en cherche pas les causes, on peut même pas penser à chercher des solutions. Parce que les solutions, ça vient après un constat et ensuite, après, on peut avancer. Mais si on veut même pas regarder ce qu'on a en face de nous, on peut pas chercher de solution. Et même si, en effet, ces dernières années, ça, on a fait du chemin et on avance, il en reste encore beaucoup à parcourir.
Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que donc Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État responsable de l'égalité femmes-hommes, le budget 2020 consacré à l'égalité femmes-hommes n'a pas augmenté par rapport à celui de 2019. Il a même baissé de quelques centaines d'euros, je crois. Et donc voilà, ça montre bien quelles sont les priorités du gouvernement actuel dans ces questions-là, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose, si c'est rien, qui est mis en place pour que, par exemple, ne serait-ce que la police soit un peu plus alertée sur ces sujets-là, parce que il y a beaucoup de fois, trop de fois, de toute façon, quand il y en a beaucoup, c'est déjà trop. Où la police est appelée et minimise les faits ou met du temps.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'ignorance, puisqu'ils sont pas formés sur ces questions.
Exactement, mais voilà, c'est-à-dire que dans beaucoup de témoignages, on se rend compte que quand quelqu'un va porter plainte pour viol à la police, voilà, déjà, des fois, il y a des refus de prendre la plainte. Il leur pose des questions qui sont complètement intrusives et déplacées, du style, enfin voilà. Le très célèbre comment vous étiez habillé, donc qui n'a rien à voir dedans, enfin voilà, c'est ce genre de choses, et voilà, il faudrait vraiment former la police, en fait, parce que
Évidemment, oui, ils sont pas formés du
ils
tout.
sont pas formés sur
Mais
ça.
je pense
Et
qu'il ne faut pas non plus complètement véhiculer cette image de la police qui est complètement pas du tout à l'écoute, parce que ça fait qu'il y a encore de moins en moins de femmes qui osent du coup aller parler à la police, sachant qu'il y a toute cette image de la police qui va pas du tout les prendre au sérieux, qui est véhiculée, alors que c'est pas la solution, justement.
oui, c'est vrai. Après, alors je crois qu'il y a, alors c'est même pas je crois, il y a des listes, au fait, de commissariats de police qui sont plus ou moins bien renseignés sur ça. C'est-à-dire que si on a besoin de porter plainte pour ce genre de choses, on peut se renseigner et puis voilà, trouver un peu le commissariat où on espère être bien reçu. Donc forcément que, enfin, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Mais en disant oui, il faut que ça change et c'est pas une raison pour arrêter d'aller porter plainte et il faut surtout pas. Enfin, individuellement, on fait ce qu'on pense être le mieux pour nous, mais voilà, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte en tout cas.
Et justement, plus il y a de femmes qui oseront justement aller porter plainte et aller dans les commissariats, et plus il y aura... Ça, en fait, c'est un effet boule de neige. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le silence et en voyant d'autres femmes finalement oser franchir le pas et le faire, réfléchissent et se disent bah, pourquoi pas moi finalement, j'ai subi les mêmes choses, pourquoi pas les régler.
C'est tout à fait ce qui s'était passé avec le mouvement MeToo et Balance ton port. Ça avait entraîné un grand... Enfin, tout le monde... avaient participé finalement, enfin, les femmes s'y sont retrouvées et elles ont contribué un petit peu toutes, puisque au final c'est quand même beaucoup de femmes qui ont ce genre d'expérience. Et puis même si on parle d'un crime moins grave, mais si on parle simplement de harcèlement de rue, c'est 80% des femmes en France qui en subissent presque quotidiennement, ou qui en ont subi au moins une fois dans leur vie. Donc au final, oui, ce genre de hashtag et puis la parole qui se libère sur ces sujets, ça dévoile quand même des statistiques qui étaient un peu restées dans l'ombre, alors que c'est quand même quelque chose de massif.
D'ailleurs, en parlant de harcèlement de rue, je sais plus exactement, mais il me semble qu'il y a des mesures, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises il y a pas longtemps, et bah, c'est déjà une belle avancée. Ça prouve qu'on commence vraiment à en prendre conscience, même le harcèlement de rue qui était banalisé jusqu'à maintenant, et on commence vraiment à se rendre compte que bah, c'est vraiment un crime, c'est quelque chose qu'il faut sanctionner, qui est grave, même si malheureusement aujourd'hui c'est triste à dire, mais c'est courant, comme tu l'as dit, 80% des femmes l'ont déjà vécu. Bah, c'est quand même sanctionné, c'est vraiment une bonne chose.
Oui, voilà, il me semble que c'est une amende, mais après, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut absolument que la police soit formée sur ces sujets, puisque c'est vrai que c'est pas une grosse amende qui est demandée, donc si la police n'est pas formée, ça va pas être très mis en place, mais pour l'instant, c'est déjà une belle avancée. Donc on vous laisse tout de suite avec la musique « Salut » de Suzanne.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, il y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant, de longtemps, trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent, si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant, de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, parce que t'en vaux pas la peine. De toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je serai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fillette.
Et nous sommes de retour sur Radio Campus avec Ondes Lycéennes. Vous venez d'écouter Salut de Suzanne et on va continuer par parler en parlant du hashtag Mon Postpartum qui est en ce moment dans l'actualité. Donc vous l'avez peut-être pas vu passer, mais c'est un hashtag où les femmes partagent leur expérience après accouchement. Et donc c'est un hashtag qui met en lumière finalement les lacunes de l'éducation sexuelle en France, puisque les femmes dénoncent le fait qu'elles étaient au courant de rien, qu'elles ont des saignements après l'accouchement pendant plusieurs mois, qu'elles ont encore des contractions, parce qu'il y a des contractions après l'accouchement, mais personne ne nous en a parlé, alors que l'école serait certainement le meilleur endroit pour l'aborder, puisqu'elle est obligatoire, et donc c'est quand même... pour moi fondamental de parler de quelque chose d'aussi banal que donner la vie, qui est quand même... très animal, enfin c'est ce qu'il y a de plus humain, donc je comprends pas pourquoi est-ce que on est si peu informé. C'est vrai que aujourd'hui l'éducation sexuelle ça se limite à certainement 2 ou 3 heures au collège à apprendre à simplement mettre un préservatif et c'est très limité puisque c'est beaucoup plus large que ça et ça fait que les gens font des très grosses erreurs, posent des tabous sur des sujets sur lesquels devrait pas y en avoir. Donc voilà.
Bah, c'est vrai que voilà, pour les personnes qui ont eu des cours d'éducation sexuelle au collège, donc en quatrième, le plus souvent, c'est surtout voilà, relations hétérosexuelles, comment mettre un préservatif et la reproduction. Et ça s'en tient à ça, c'est-à-dire que tous les sujets qui sont importants autour de l'éducation sexuelle, comme le consentement, les violences sexuelles aussi dont on devrait parler plus souvent, le fait qu'il existe, comment fonctionnent les pilules, tout simplement, ce genre de choses, la contraception, ou même tout simplement les organes génitaux en eux-mêmes, et
oui,
pas uniquement le pénis.
Oui.
Enfin voilà, c'est plein de choses dont on devrait parler.
Dont on ne parle pas du tout. Pourtant, c'est un sujet qui est large et qui est quand même de l'ordre du scientifique au final, puisqu'il y a quand même une grosse partie de tout ça qui est tout simplement scientifique. Le clitoris n'est toujours pas représenté dans les manuels scolaires malgré la grosse polémique qu'il y avait eu, ou en tout cas quelques-uns seulement.
Dans un seul manuel de SVT, il est représenté dans son intégralité et pas juste comme un petit point.
Voilà, donc au final, c'est très limité et en plus, le gouvernement a refusé de le rendre obligatoire au programme. Donc c'est vrai que ça c'est encore une chose qui fait que finalement ça met un voile sur le corps de la femme qui n'ont même pas le droit de se connaître elles-mêmes, parce qu'elles vont à l'école et elles apprennent même pas de quoi elles sont faites, à quoi elles ont le droit et tout ça, donc pour moi c'est un petit peu aberrant.
Et c'est un peu à l'image du tabou qui existe depuis toujours dans les écoles, puisque c'est vrai que, comme vous l'avez dit, l'éducation sexuelle au collège, c'est un peu une blague. On n'y apprend rien du tout, si ce n'est mettre un préservatif, mais c'est vraiment rien comparé à toutes les connaissances et le savoir qu'on devrait acquérir. Et oui, vous parliez de la représentation du corps de la femme. Ça montre aussi la non-volonté de l'État d'aller dans ce sens-là, puisque c'est une polémique qui dure depuis maintenant un moment et on fait toujours rien pour que ça change. Et c'est un peu triste, puisque vraiment, beaucoup de femmes ne savent vraiment pas comment elles sont faites, et ce, même après un âge avancé, et on devrait l'apprendre à l'école.
C'est vrai, et puis surtout qu'au final, c'est vrai que c'est fondamental d'apprendre à mettre un préservatif, c'est la base, mais au final on le présente pas de la bonne manière je pense, puisqu'on parle de presque deux types de contraception, il y a soit le préservatif, soit la pilule, et on est presque très peu avertis sur le reste. Et en plus, on parle de préservatifs pour absolument éviter les enfants, absolument éviter les IST, comme si le sexe ne servait qu'à faire des enfants. Et on n'aborde absolument pas la notion de plaisir. En même temps, c'est un peu compliqué quand on oublie qu'il y en a des organes de plaisir chez la femme. Donc au final, c'est vrai que c'est très limité, et même l'éducation sexuelle, ça tourne pas qu'autour de la relation sexuelle, puisque la grossesse en elle-même, on n'est pas du tout averti dessus, il n'y a rien du tout. Là, visiblement, le postpartum après la grossesse, on ne sait rien, et même dans les préparations à l'accouchement, les femmes n'ont pas été averties de tout ça. Il n'y a aucun produit sur le marché qui permet aux femmes de gérer les saignements abondants qu'elles ont après l'accouchement. Les femmes qui savaient rien, elles sont même allées aux urgences. Il y en a des dizaines de femmes qui vont aux urgences tous les jours parce qu'elles n'étaient pas au courant qu'elles ne devaient pas saigner pendant autant longtemps après l'accouchement. Donc c'est vrai que c'est complètement contre-productif.
Et puis en plus d'être contre-productif, c'est tout simplement dangereux. Donc de ne pas connaître son corps, de ne pas connaître tout simplement son sexe, c'est quand même assez grave en fait. D'avoir encore aujourd'hui une méconnaissance comme ça de certaines parties de nos corps, d'en avoir honte, juste parce que on nous apprend rien sur ça, on nous cache des choses et puis on s'en tient uniquement à la reproduction et c'est tout quoi.
C'est même pas une méconnaissance, parce qu'au final la science sait comment ça marche, la science sait, mais la science nous dit pas, donc forcément il y a un problème quelque part. Moi je me dis que forcément, si jamais l'État a refusé de placer le clitoris dans le programme, c'est qu'il y a forcément une raison. Pour moi c'est que le clitoris, en tout cas le fait de connaître son corps, ça donne un pouvoir aux femmes qu'il leur est encore refusé, et c'est pas normal puisque ça leur appartient.
Oui, exactement. Et puis du coup, comme autre souci que créent les grosses limites de l'éducation sexuelle au collège, c'est tout simplement toutes les IST, c'est-à-dire que pour le dire clairement, on aborde uniquement les rapports hétérosexuels, donc pénis-vagin, c'est-à-dire que il y a énormément de personnes, par exemple homosexuelles, qui ne savent pas que oui, les relations entre hommes ou entre femmes sont aussi des relations à risque, que par exemple la sodomie, c'est une relation qui est encore plus risquée en termes d'attraper des IST que une relation sexuelle vaginale. Et c'est aussi vraiment dangereux, c'est-à-dire que on n'a aucune info sur ça, on ne nous en parle pas. On parle uniquement du préservatif exactement, alors que c'est pas le type de contraception qui convient à tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est assez pratique, mais il y a des gens qui peuvent avoir des allergies, donc il peut y avoir les pilules, les stérilets, les anneaux vaginaux, la vasectomie, il y a aussi les préservatifs internes. Il y a plein de choses qui ne sont pas abordées, qui ne sont aujourd'hui toujours pas abordées, en fait, on se retrouve à devoir faire notre propre éducation sexuelle si on en a les moyens, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se retrouvent sans moyens et du coup qui ne savent rien sur leur propre corps.
Et même au collège, en maladie, on n'aborde vraiment que le sida. C'est la seule, je sais pas pour vous, mais c'est la seule maladie que moi, personnellement, j'ai abordée. Et il y avait beaucoup, beaucoup de mes camarades de classe qui ignoraient qu'il en existait d'autres, et il en existe même beaucoup d'autres. Le sida, certes, c'est la plus connue, c'est celle... Qui a fait beaucoup de ravages, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont encore plus virulentes et qui peuvent nous toucher. Et c'est vraiment triste qu'on parle que du sida. C'est oui, ça prouve bien que on veut nous donner une connaissance à ce sujet, mais cette connaissance, elle est limitée.
Par exemple, d'ordre de l'introduction, ouais. Pour moi, oui. C'est ça.
En classe de quatrième, j'ai vu des personnes d'un âge assez avancé quand même poser des questions sur la sexualité qui étaient vraiment rudimentaires. Elles avaient vraiment eu zéro information. On leur avait jamais expliqué rien du tout.
Et le pire, c'est que dans tout ça, il y a quand même beaucoup d'adultes qui auront comme réponse « Vous avez Internet de toute façon, et c'est vrai ». Oui, on peut trouver toutes les réponses sur Internet, je pense, à peu près toutes, je pense. Mais encore faut-il avoir le courage de chercher et avoir eu l'éducation qui fait qu'on a la curiosité aussi. Parce que au final, on peut pas chercher quelque chose qu'on ne sait pas, si on ne sait même pas ce qu'on cherche. Et même, quand bien même on aurait les informations qui viendraient à nous, si jamais on a eu une éducation un peu conservatrice ou tout ça, et qu'on est trop gêné d'utiliser Internet pour ce genre de questions, et ben on passe à côté de l'information et finalement l'école ne nous aura pas du tout aidé à avancer de ce côté-là.
Exactement. Et d'ailleurs, je rappelle que pour ce qui est de renseignements sur l'éducation sexuelle, sur les IST et ce genre de choses, vous pouvez aller voir le planning familial, par exemple, qui est renseigné sur ça. Aussi les associations aide ou même les centres LGBT près de chez vous, qui normalement ont ce genre de renseignements. Ou encore choisir sacontraception.gouv, qui est un site internet de l'État et qui parle des différents types de contraception.
Oui, et finalement, ne pas parler de tout ça, ça crée aussi un gros tabou sur le corps de la femme principalement, puisque c'est celui qui est le moins représenté. Mais ça crée une grosse omerta qui fait que le dialogue est coupé. Et on parle très très peu de ce qui touche à la vie d'une femme, donc notamment la grossesse. On parle très très peu des règles. Il y a un tabou sur le clitoris énorme qui fait qu'aujourd'hui, il y a 6000 femmes dans le monde qui sont excisées par jour. C'est un chiffre qui est absolument aberrant et... Je sais même pas comment on fait pour avoir ces statistiques, alors qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus, puisqu'on ne peut pas recenser quelque chose qui est même pas illégal dans tous les pays, je crois. Donc, pour moi, oui, maintenant, il y a la chirurgie reconstructrice qui est disponible pour ces femmes qui ont été victimes, mais c'est comme un médicament. Il faut pas un médicament, il nous faut un vaccin. Il faut que ce soit quelque chose qui soit rayé de la carte. On ne devrait plus avoir des chiffres aussi énormes sur ce genre de mutilation.
Surtout dans un pays comme le nôtre, qui est quand même un pays plutôt avancé dans l'ordre mondial et plutôt développé, mais d'avoir des lacunes aussi importantes dans ces domaines-là, c'est quand même triste que l'État ne reconnaisse pas certaines choses, mais mette le voile sur d'autres, que notre jeunesse soit si peu informée, c'est quand même triste. Oui.
Après, pour revenir sur la question des mutilations sexuelles. Donc il y a l'excision bien sûr qui est pratiquée dans de nombreux pays, qui est très grave. Il faut savoir aussi qu'en France on n'est pas non plus complètement blanc, parce que un sujet dont on parle beaucoup trop peu, c'est l'excision, donc les mutilations sexuelles, non pas l'excision, les mutilations sexuelles sur les enfants intersexes, donc qui est un sujet qui est lié un peu au féminisme, mais dont on parle trop peu. Qui est encore pratiqué aujourd'hui dans des hôpitaux en France. Il y a aussi le point du mari, qui est pratiqué par des gynécos en France et des chirurgiens, qui est, du coup, pour faire simple, suite à un accouchement, un point de suture qui est fait au niveau du vagin, pour que justement le vagin soit plus serré, pas trop détendu, pour faire plaisir au mari pendant les relations sexuelles. Donc c'est une mutilation sexuelle, puisque il est fait sans mettre au courant la femme, sans le consentement de la femme, c'est juste complètement horrible. Enfin voilà, il y a aussi ça qui existe en France malheureusement, et c'est aussi le genre de choses contre lesquelles on doit lutter.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les violences gynécologiques. Il y a des nombreux témoignages qui montrent qu'il y a des femmes qui ont subi des choses affreuses, même dans le secteur médical, qui finalement devrait être le secteur de confiance, qui nous apporte les informations, qui nous apporte... la santé, le bien-être, et pourtant il y a encore des choses qui semblent archaïques quand même. Le point du mari, ça me paraît loin, surtout qu'une femme met beaucoup de temps à se remettre d'un accouchement, donc c'est comme s'il fallait tout de suite qu'elle se remette en selle et il fallait qu'elle soit là pour son enfant et qu'elle soit en train de se reconstruire et qu'elle soit aussi visiblement active sexuellement directement, alors que c'est presque impossible, comme d'ailleurs on l'a vu avec le hashtag mon postpartum, il y a beaucoup de femmes qui le disaient. Impossible d'avoir des relations sexuelles pendant au moins 4-5 mois, parce que tout simplement ça fait trop mal, c'est le corps a vécu un traumatisme.
Au niveau de l'heure, on est un peu chaud, mais je pense qu'on va vous laisser avec une petite musique, donc on va mettre je ne sais plus laquelle c'est, au secours. Si j'étais un homme de Chilla.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne. Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On se crédit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Je te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Vous venez d'écouter Si j'étais un homme de Chilla et nous allons maintenant parler d'un autre sujet qui commence à se faire sa place et notamment dans les rues hier lors de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme dans la rue. Donc on va parler de précarité menstruelle. C'est donc la précarité menstruelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la moitié de la population est touchée par les menstruations tous les mois et c'est des nombreuses femmes qui sont dans une situation de précarité face à ça puisqu'elles n'ont pas l'argent ou tout simplement pas les moyens d'acheter des protections périodiques, donc tampons, serviettes, pas les moyens de se fournir, qui se retrouvent à faire des protections de fortune avec du papier journal, du papier toilette et tout ça. Et donc ça, c'est une situation donc, de précarité menstruelle. Aujourd'hui, en France, ça touche 1,5 million de femmes. Donc c'est un chiffre qui est quand même très gros pour un pays qui est développé, de savoir que 1,5 million de femmes tous les mois se retrouvent en situation de précarité, dans des situations où elles doivent donc faire des protections de fortune, comme je le disais tout à l'heure, où elles ne sont pas à l'aise, elles doivent aller travailler ou pas, puisque donc, non, c'est une situation de précarité. Donc elles se retrouvent finalement pendant une semaine par mois très mal à l'aise face à quelque chose de parfaitement naturel. Et donc on parlait tout à l'heure du tabou sur le corps, notamment c'est un sujet qui a du mal à avancer parce que les règles aujourd'hui c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à parler. Voilà.
C'est vrai que du coup donc la précarité menstruelle, c'est quelque chose dont on parle trop peu, comme beaucoup de sujets en rapport avec le féminisme. Forcément, c'est en fait avoir accès à des protections menstruelles, c'est quelque chose qui est de l'ordre de. Bah, tout simplement, quelque chose d'assez évident, quoi, quelque chose de première nécessité, tout simplement. Il y a certains pays où c'est remboursé.
Alors, j'ai vu donc très récemment, il y a justement l'Écosse qui a voté la gratuité des protections périodiques dans tous les lieux publics. Ça veut dire que les femmes auront accès à des serviettes comme elles ont accès à du papier toilette en allant par exemple aux toilettes dans un restaurant, en allant aux toilettes à la mairie ou n'importe où. Donc ce sera distribué comme du papier toilette.
C'est vraiment une bonne avancée dans ce pays, puisque si on regarde bien la France, même dans les établissements scolaires, que ce soit collège ou lycée, dans vraiment aucune toilette, on peut trouver des protections, et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, comme tu le disais, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas s'en offrir et qui sont obligées de s'en fabriquer elles-mêmes, avec les moyens du bord. Et justement, le lycée ou le collège ou l'école en général, ce serait vraiment le bon endroit pour en trouver gratuitement et pouvoir justement accéder à ce confort qui
C'est
n'est même
même
pas
pas
un
du
confort,
confort,
oui,
ouais.
ce qui n'est même pas un confort, justement, qui c'est tout à fait normal pour une femme de bah justement d'avoir accès à ça.
Oui, c'est de la première nécessité en fait. Pour moi, c'est un besoin, c'est une question de dignité. C'est impossible d'accepter que des femmes se retrouvent à être tout le temps, toute la journée, pendant une semaine en stress, de savoir que leurs vêtements vont être tachés, de se retrouver à se sentir sale alors que ça ne l'est pas, de ne pas avoir accès à tout ça, et même parfois de se mettre en danger, puisque au final, il y a des femmes qui sont tellement dans la détresse et dans la précarité qu'elles réutilisent des tampons en les rinçant, donc ça c'est quand même d'un point de vue hygiénique aberrant, et c'est surtout que elles sont laissées toutes seules. Donc même si c'est vrai qu'en France on a eu des avancées très récemment, notamment donc avant c'était considéré comme un produit de luxe les protections périodiques, donc à ce titre elles étaient taxées à hauteur de 20%, et donc récemment on est passé à 5,5% de taxes, ce qui fait que c'est quand même tout de suite un peu plus abordable, mais il y a encore de la marche à faire.
Voilà, donc exactement. Petit rappel tout de même que du coup, pour les personnes qui se retrouvent en précarité menstruelle, on peut avoir accès gratuitement à des protections, justement au planning familial, sûrement dans d'autres associations aussi. Voilà. Au collège et au lycée, les infirmiers et infirmières sont censés en avoir et pouvoir en délivrer librement. Donc après, le souci de est-ce que les infirmiers ou infirmières sont là ou non, c'est un autre problème, mais voilà.
Après, faut que les élèves osent aussi, puisque, comme on le dit depuis le début, c'est un sujet très tabou, et dans un lieu scolaire encore plus, il n'y a aucun dialogue qui est fait entre les jeunes, et faut vraiment avoir beaucoup de courage pour être une femme qui va demander justement à son infirmière et qui fait cette démarche. Je pense qu'il y en a très peu et il faut les féliciter. Mais malgré ça, je pense que de plus en plus on commence à y avoir accès et de plus en plus de femmes commencent à comment dire, oser et franchir le pas.
Bah oui, tout à fait. Donc le tabou est toujours bien là, mais il commence à réduire évidemment parce qu'on parle de plus en plus de ces sujets-là, et tant mieux puisqu'il faut que ça avance. Donc on peut pas rester comme ça à ne rien faire. Mais plus on en parle et plus le tabou se brise, même s'il est encore très solide, c'est un tabou qui va être très long à briser, mais évidemment, bah, plus on en parle et plus les adultes mettent aussi en confiance. Par rapport à ça, les jeunes filles qui se retrouvent dans leurs premières règles, donc notamment on disait qu'au collège, les infirmières pouvaient dispenser des protections périodiques. Après, il faut que le travail ait été fait aussi dans l'éducation, donc par l'école et par les parents, de mettre la jeune fille en confiance par rapport à ça, de lui dire que c'est normal, qu'elle a tout à fait le droit, que c'est un besoin comme un autre. Au final, c'est comme avoir faim, c'est vital, il n'y a aucune manière d'y échapper. Donc, aller demander un tampon, ça devrait être aussi naturel que ça. Maintenant, pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour moi, le travail, il est aussi sur l'éducation, par rapport pour briser le tabou, il faut le prendre à la racine.
Oui, donc voilà, exactement. Et puis pour revenir encore sur la méconnaissance de nos corps, on peut parler tout simplement de la mucoviscidose, qui a plus ou moins éclaté... Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? J'ai complètement dit une bêtise. Comment on rembobine? Donc, comme je ne le disais pas...
Et je pense que tu veux parler d'endométriose.
Merci, quelle bêtise j'ai donc fait. Donc, l'endométriose... C'est du direct. Hein. L'endométriose, que beaucoup de personnes ont découverte en fait il y a quelques années, donc qui est une maladie qui touche, je crois, 10% des femmes.
Oui, c'est ça, oui.
Donc,
femme sur 10.
Ce qui est quand même énorme en fait, et dont la plupart n'étaient pas du tout au courant ou qui ont été diagnostiquées beaucoup trop tard. Je vais pas expliquer trop en détail parce qu'on a déjà plus trop de temps et que c'est pas forcément plus intéressant. Mais voilà, c'est un des trop nombreux exemples oui. qui font que ouais.
Et finalement, c'est une maladie qui est grave parce que elle provoque des lourdes conséquences. Et si elle n'était pas diagnostiquée, c'était tout simplement parce que en grande majorité, les gynécologues prenaient pas la douleur des femmes au sérieux. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, là, on a beaucoup parlé de problèmes concrets, mais d'un point de vue purement moral, il y a quand même de nombreux stéréotypes et clichés. Mais donc voilà, il y avait beaucoup de gynécologues qui se disaient que leurs clientes étaient des chochottes et que donc elles exagéraient parfaitement la douleur alors que c'était des femmes qui étaient complètement, enfin qui étaient malades, donc qui étaient en souffrance d'une véritable maladie qui pouvait entraîner des conséquences graves, donc la stérilité. J'ai vu aussi que finalement il y avait des traitements, enfin il n'y a pas de traitement encore pour guérir l'endométriose, mais au moins pour soulager, et c'est des traitements auxquels elles n'avaient pas accès parce qu'elles étaient tout simplement pas diagnostiquées. Donc je trouve que c'est un petit peu triste et léger de la part des professionnels de santé.
Ça montre encore une fois toutes les failles qu'on a en France par rapport à ces sujets. Les jeunes sont au courant de rien, les adultes sont au courant de rien, les femmes découvrent leur corps même après leur accouchement. Ça montre beaucoup de lacunes qui sont présentes en France. Mais il faut quand même souligner qu'il y a une amélioration, certes, mais elle est encore trop peu voyante. Même si elle existe, il faut arriver à appuyer sur le fait que justement il y a certains problèmes non réglés qui n'ont jamais été réglés, et certains problèmes justement qui n'ont même jamais été diagnostiqués comme des problèmes et auxquels on a toujours mis des voiles dessus.
Et voilà, donc on voulait finir en conseillant une série qui est disponible sur Netflix et qui commence à plutôt bien marcher, donc qui permet d'avoir quand même accès à un peu d'informations, et puis c'est scénarisé, donc c'est assez sympa. On voulait conseiller Sex Education, qui est disponible sur Netflix, et qui permet d'être assez informé quand même sur... c'est une série qui est assez inclusive et assez ouverte, donc c'est plutôt bien, je pense, pour essayer de s'informer tout en regardant une série, parce que c'est plutôt cool.
Oui, tout à fait. De mon côté, je vais recommander le podcast Les couilles sur la table, qui est un podcast qui parle des masculinités d'un point de vue féministe et qui est très intéressant. Donc vous pouvez d'ailleurs aussi écouter Quoi de Meuf, qui est un autre podcast de nouvelles écoutes. Voilà, j'en aurais trop à conseiller.
Et donc voilà, on vous laisse. Donc vous venez d'écouter Ondes Lycéennes sur Radio Campus avec Luna, Mathis et Florine. On vous remercie, passez une bonne soirée.